Finalement, a métamorphosé la Tunisie. Ce soir, avec l'auteur Abdelwahab Medeb et avec le réalisateur Farid Bouguedir, nous allons nous plonger dans la Tunisie, ses valeurs et ses senteurs. Si ce soir, à partir de 21h, France Inter. La différence. 15h04, c'est l'heure de retrouver Daniel Mermet pour là-bas, si j'y suis.
Bonjour, je viens d'entendre le reportage d'aujourd'hui sur René et sa femme et leur petite fille et j'avais mon petit garçon de 5 mois dans mes bras et je souriais et je pleurais d'émotion. Merci, c'était beau, c'était magnifique, c'était grand, c'était fort. C'était difficile de grand. Merci. Allez, bonjour, c'est Marie-Jeanne de Rennes. Je t'ai dit sans aujourd'hui m'a bouleversé. Je suis ce vieil homme avec sa poésie, comme définit Jaurès, l'art de l'impossible, la recherche de l'autre côté des choses, du non-apparent. Et je rouvre les amours jaunes à cause de cet homme. Toute l'émission, j'ai pensé à cette merveilleuse chanson de Félix Leclerc qui va si bien avec cette émission d'aujourd'hui. Et elle dure hélas 2 minutes 14. Essayez de ne pas la couper.
Je m'appelle Dubaï.
ama şu pencere memle. Muhaş politik ideolojik kırpı tanımızı tutar. Yalancı kudret ve misyon de prizemi. Tam tanrıya var not. Not okuyan bir şeyle.
Yeah.
Schmidt. Alors aujourd'hui, peut-être autre chose. On part très loin à Ivry-sur-Seine, c'est pas loin d'ici, c'est pas loin de Paris. Qu'est-ce qui se passe à Ivry-sur-Seine? Un petit concert. Un gars qui a perdu son accordéon et des musiciens qui lui ont trouvé. Il a trouvé un accordéon. Bon, c'est quand même pas. Oui, sauf que c'est vraiment un sujet tout à fait crucial et important. C'est les Roms. Vous vous souvenez, l'été dernier, ça peut revenir. Cet été, comment notre président de la République et son gouvernement s'en sont pris Voilà, voleurs de foule que ces gens-là contre les voleurs de pont pris. Pour des boucs émissaires, littéralement raflés et renvoyés dans leur pays, puisque la Roumanie, il n'y a pas de Rome, il n'y a que des Roumains, ces Roms sont. C'est leur communauté, c'est leur histoire, mais ils sont roumains. Et on va les retrouver, à Ivry, où il y a un campement de roumains. À Ivry, ce qui ne va pas évidemment s'imposer un certain nombre de problèmes que la municipalité essaye de voir de face, de regarder de face en essayant d'intégrer tant qu'elle peut ces Européens que sont les Roms. Vous connaissez l'exploitation électorale, démagogique, populiste qui est faite des Roms. C'est vraiment français, quand même, vraiment marqué. Dernier par un véritable racisme d'État manifesté par ce gouvernement. Et voilà comment localement on essaye de s'y prendre avec peu de moyens, mais avec une véritable volonté d'intégrer et de considérer les autres comme des êtres humains. Le monde, c'est tout le monde. Auparavant, encore quelques messages par le ciel que vous avez laissé. Dans la boîte vocale de la basse, j'y suis au 01 56 40 37 37.
Oui, j'ai entendu ce matin l'éditorial de Dominique Seux qui nous parlait de la Grèce. C'est infernal. Il n'y a pas que Dominique Seux d'ailleurs qui est en cause. Il faut lire l'édito de Denis Cifer dans le politique de la semaine dernière pour voir enfin quelqu'un nous expliquer qu'avant, quand un État avait des dettes, il pouvait éventuellement émettre de la monnaie. Attention à l'inflation. Ce n'est que depuis 1973 que la Banque de France n'a plus le droit de prêter à la France. Quand un État est endetté, il emprunte où ? Auprès des marchés financiers. C'est une aberration. Personne soulève ce problème. C'est quand même incroyable. Il n'y a point de journaliste de gauche nulle part. Les économistes invitez Jacques Généreux, faites-lui expliquer. Denis Cifer nous dit que c'est au salarié modeste, au chômeur ou à l'exclu, mais aussi aux enseignants et au personnel hospitalier que l'on adresse cette remontrance. Vous vivez au-dessus de vos moyens. C'est quand même quelque chose d'effrayant qu'on reproche à des petites gens de vivre au-dessus de leurs moyens, d'obliger des États à emprunter sur les marchés financiers à des taux insensés. Mais dans quel monde on vit? Et que personne parmi les journalistes voit ce problème d'un autre angle, même sur France Inter, on comprend pas. Qu'est-ce que c'est que ces écoles de journalistes qui forment des journalistes qui disent tous la même chose, qui voient pas l'autre côté des médailles? Ils nous servent tous le même discours. C'est quand même absolument scandaleux. C'est Jocelyne de l'Ardèche.
Antoine. Thank you. il faut savoir que ces Roumains ne sont pas les seuls Roumains qui sont dans la ville. Depuis plusieurs années, il y a des campements roumains, des petits campements, qui existent maintenant et des projets de vie. Donc il y a déjà une tradition dans ce domaine, dans la ville. Transporte. vamos a París, no París, la región parisienne. La fuente efectiva de una
Association locale, alors ça et c'est vrai, il y a un concert de Titi Robin, ça c'est dans toutes les manifestations de solidarité, cela est exemplaire, c'est donc Titi Robin, un grand artiste, un grand musicien, un grand guitariste. Le hasard fait que son accordéoniste s'appelle Francis Varis, est ivrien et voisin du camp où sont les Roumains actuellement, a donc appris l'existence de cette situation, et c'est lui qui a proposé à Titi Robin, qui a accepté tout de suite, une soirée au Hangar, qui est un lieu musical à Ivry. Toute la recette de cette soirée sera reversée au collectif de soutien aux Roumains d'Ivry pour tous les besoins toujours importants dans le camp. Mais sa solidarité ne s'arrête pas là, il a proposé de venir sur le camp donner un concert pour les Roumains. Et alors, il y a une petite histoire dans la grande histoire, c'est que au moment de l'incendie, il y a toujours des accordéonistes, évidemment, dans un campement roumain ou même. Et un des accordéonistes a perdu son accordéon. Son accordéon a été brûlé. En fait, l'argent qui va être collecté servira aussi à offrir un nouvel accordéon à notre accordéoniste roumain qui s'est trouvé sans instrument. Et vive la musique, vive la musique, surtout la musique solidaire. Sacha, qui es-tu pour organiser tout ça et pour être là aujourd'hui avec nous et nous emmener dans ce, sur ce terrain?
Moi, je suis un militant de la vie, associatif et politique. Je ne connaissais pas la situation de cette population. J'ai réagi quand j'ai appris qu'il y avait une centaine de gens qui étaient sur le trottoir dans ma ville. Et donc, comme d'autres militants d'associations comme la FCPA, les catholiques d'Ivry, Rome-Europe, qui est une association constituée depuis longue date, qui s'occupe des problèmes des Roumains dans notre pays et au-delà, la jeunesse communiste. Moi, je me suis individuellement, je me suis intégré dans ce collectif en tant que militant communiste, voilà. Mais toutes les sensibilités sont représentées. Et il y a évidemment des gens qui sont simplement des gens engagés et qui réagissent avec leur cœur. Donc là, on prend la rue Trion. Alors là, c'est une autre histoire. Ça s'appelle la résidence Trion. C'est la rue du campement et des Romains. Vous voyez l'état de cette résidence? On peut penser que c'est une cité HLM plus ou moins bien entretenue. Ce sont des copropriétaires, mais ce qu'on peut appeler des copropriétaires pauvres. Et là, il y a eu une manifestation. Évidemment qu'il ne va pas nous étonner. Une manifestation de rejet de la présence de ces familles roumaines, organisée par un tout petit noyau de gens qui pour moi biberonne à l'idéologie du Front National et qui ont fait une pétition demandant l'exclusion de ces familles depuis le début. Il y a un autre porte-à-porte fait par des amis du collectif qui a reçu aussi un très bon accueil avec des gens qui ont dit qu'ils n'avaient évidemment pas signé ce type d'opposition misérable. Demander au ministre de l'Intérieur de mettre un terme aux implantations sauvages de campements de Rome.
Nicolas Sarkozy.
Ce sont des hommes de non-droit qu'on ne peut pas tolérer en France.
30 juillet 2010.
Il ne s'agit pas de stigmatiser les Roms en aucun cas. Mais les Roms qui viendraient en France pour s'installer
sur des emplacements légaux sont les bienvenus. Mais en tant que chef de l'État, puis-je accepter qu'il y ait 539 campements illégaux en 2010 en France? Eh bien, nous allons procéder d'ici fin septembre au démantèlement de l'ensemble des camps qui font l'objet d'une décision de justice. Et là où cette décision de justice n'a pas encore été prise, nous engagerons les démarches pour qu'elle intervienne le plus rapidement possible dans les 3 mois. La moitié de ces implantations sauvages auront disparu du territoire français. Comme si de rien n'était, c'est avec un large sourire que Nicolas Sarkozy pose pour la photo de famille. BFM TV, officiellement donc, tout va bien, 16 septembre 2010. Mais depuis plusieurs jours, le torchon brûle entre Paris et Bruxelles sur la question des Roms, et c'est à l'heure du déjeuner que le ton sera monté, selon le Premier ministre bulgare, Nicolas Sarkozy aurait eu un échange très violent avec José Manuel Barroso, qui en profite pour glisser cette petite phrase lors d'une conférence de presse. C'est inacceptable toute sorte de discrimination en Europe en termes de minorité ethnique. Le respect de la dignité humaine, c'est une valeur sacrée. Un tacle donc au président français, Nicolas Sarkozy, qui persiste et signe, les expulsions de Rome vont bien se poursuivre. Nous allons donc continuer à démanteler les camps. Illégaux sans aucune distinction d'origine ou de culture. Pas de changement de cap donc pour le chef de l'État qui a redit qu'il avait été très blessé par les propos de Viviane Reding, la commissaire à la justice qui avait comparé les expulsions de Rome à la déportation des Juifs. La chasse aux Roms la reconduite du Rome est une, comme vous le savez, une industrie nationale. 10 000 à 12 000 Roms sont reconduits. Et puis, il revient commence à avoir des, voilà, toiles de tente, hein, là, voilà, derrière une palissade en béton, là. Voilà. On voit passer nos amis qui reviennent de leurs activités. Il faut savoir que l'activité est très forte. Ils partent tous les matins, ils rentrent tous les soirs avec des activités de chiffonnier. Je crois que c'est un métier qui existait et qui était un métier noble au début du XXe siècle. Je crois même savoir que les gens ont gagné beaucoup d'argent en étant chiffonniers. Ils font les poubelles, comme on dit, et ils vont vendre dans les marchés populaires, comme à Montreuil. C'est une des activités. Pour en avoir d'autres, comme le travail du métal, etc. Mais ils sont pas encore installés pour ça. Alors voilà, il y a un petit portail en fer. Et il y a une petite fille qui descend. Et c'est pentu, là. Il y a des petits escaliers. Et heureusement qu'il ne pleut pas, parce que sinon ce serait de la gadoue. Et ce serait la glissade assurée. Vous avez deux chemins, un choix plus tranquille et un choix plus périlleux, là, dans la situation. Ça s'attaque tout de suite le plus périlleux. Voilà, j'ai l'habitude, c'est pour ça que je m'accroche là, faites comme moi. Bah, il faut s'accrocher à la branche. Voilà. Allez, ouais. Mais t'as quelque chose de Johnny Westmiller dans Tarzan quand tu descends, Sacha.
Absolument.
Là, c'est un grand terrain, il y a les lignes de chemin de fer, c'est le RER, là.
Absolument.
C'est ça?
Oui, absolument. C'est le RERC qui passe et qui berce tout le monde le jour et la nuit, ici. La première barre qui est la plus voisine, c'est la résidence Truillon dont je vous ai parlé. Et là, les bâtiments, là, c'est la cité Gagarine où ils ont été il y a 15 jours. Invités. Et où on espère que quelqu'un. Les habitants viendront participer à la fête. Alors, il y a quelques dizaines de toiles de tente, il y a pas de caravane, hein, c'est plutôt aucune caravane,
de toute manière, c'est des pauvres de chez pauvres. Et ils n'avaient pas de caravane.
Bonjour.
Ah, on attend un accordéon là. Ah, mais c'est un enfant qui joue de l'accordéon.
Là-bas, l'accordéon, c'est mon.
Il y a deux femmes enceintes là qui sont là, et puis un petit bonhomme là avec un accordéon.
Médaillon, quel âge il a?
3 ans.
Vas-y.
Alors, il est où comme trois pommes? Il a un petit accordéon avec.
to get to bed, get to bed, huh? Can I get? Pour l'instant, il surtout la sirène des pompiers. Mais bientôt, on espère qu'il aura un plus large répertoire. Mais on se demande si la sirène des pompiers, c'est pas le début de Vagrande.
Oh,
terrain. Alors comment vous envisagez la suite ici?
Le problème c'est que la suite c'est très compliqué. C'est très compliqué pour une ville de même aussi riche et bien gérée qu'il y a sur scène, 200 personnes à accueillir, c'est extrêmement difficile. Non, moi je suis inquiète, très inquiète, mais voilà, on est en train de construire des choses avec, avec chaque famille, avec chaque individu, pour voir les situations des uns et des autres, et de regarder qui veut quoi aussi, parce que c'est ça qui compte, c'est pas... nous, nos normes et nos standards, c'est vraiment de regarder ce qu'ils veulent. On est un peu exigeant sur les questions de santé et de scolarisation, parce que des fois ils veulent pas. Mais là, pour le coup, on est un peu exigeant.
Donc là, tous les enfants sont scolarisés.
Non, c'est un travail de longue haleine. Les premiers qu'on a eu là en février, donc au début ils étaient donc beaucoup moins nombreux. Les premiers qu'on a eu, il y a eu 5 enfants, ils sont scolarisés, là pour le coup c'est bon, ils y vont. Ils ont fait un voyage scolaire là, je prenais une classe de découverte là et ça s'est super bien passé, c'était un bon moment de rencontre, voilà. Mais avec les autres, le travail s'engage. Voilà, mais c'est compliqué.
Donc vous êtes élu depuis combien d'années?
Depuis 3 ans seulement. Toute nouvelle élue, voilà. C'est la première fois qu'on est confronté au pouvoir, évidemment. Mais même la ville, en termes de proportion, là, on est à autour de 200 personnes, c'est un gros campement.
Il y a combien d'habitants à Ivry-sur-Seine?
55 000 le dernier recensement. Dans la réalité, 56 000. Voilà. Après, les responsabilités politiques, c'est pas une collectivité territoriale qui peut gérer autant de personnes. Donc il y a l'État, il y a l'Union Européenne, il y a des choses à faire et pour l'instant on les voit pas trop. On attend toujours la réponse du préfet qui nous a pas répondu. On demande un rendez-vous et même ça, on n'a pas eu de réponse. Voilà.
Et sur la question du terrain, vous avez un peu de marge de manœuvre ou pas?
C'est pas le nôtre. Pas le nôtre, c'est celui de la PHP, Assistance Publique Hôpitaux de Paris. Donc voilà, ils ont intenté un procès qu'ils ont perdu, c'était le 8 avril si je me souviens bien. Voilà, ils ont perdu, ils ont jusqu'au 8 juillet pour faire appel, donc on verra bien le 8 juillet ce qui se passe, mais voilà.
C'est une vision particulière de l'assistance publique, hein, quand même, de pouvoir expulser des gens en difficulté, oui.
Tout à fait, et puis on a bataillé rien pour tirer l'eau. Parce que le système le plus simple, c'était de demander de tirer l'eau de chez eux. Et même ça, c'est juste à côté. C'est juste à côté.
Juste, d'accord.
C'est juste là, derrière les arbres.
D'accord. Mais ils ont refusé, donc.
Non, ils ont pas refusé, mais on a bataillé.
Alors, il y a une petite cabane qui a été fabriquée avec la bâche d'une banque française bien connue, qui a été mouillée dans des grosses affaires, mais quand même de la crise financière. Bon, ben voilà, il y a une bâche qui a été recyclée pour servir de toit à une petite chambre. C'est pas grand chose,
quoi. C'est pas grand chose, ça pourrait être beaucoup mieux vu la banque. C'est, faut pas le dire, mais après, c'est, puisqu'à Ivry-sur-Seine, ça fait des années qu'on accueille des familles en beaucoup plus petit nombre. Et en fait, on est assez exigeant sur les garanties qu'on leur apporte, quoi. Donc là, on a une trentaine de personnes qu'on suit depuis 6 ans. Donc là, tous les enfants sont scolarisés. Sur les questions de santé, ça marche bien. Enfin, voilà. Ils sont sur un terrain de la ville. On a décidé de transférer une école. Donc, il faut qu'ils s'en aillent. Mais... voilà. Donc voilà, on considère que c'est de notre responsabilité, une fois qu'on s'est engagé, d'aller jusqu'au bout, quoi. Mais pour 200 personnes, on peut pas. On peut pas, on n'a pas les moyens, on n'a pas les... Et eux, ils peuvent pas aller ailleurs. Il faut bien qu'on trouve une solution, hein. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Je suis très contente que vous soyez là et que vous soyez là. Donc, Constantin a perdu son accordéon lors de l'incendie du campement de la route nationale 305 au mois de février. Et quand j'ai rencontré Constantin dans le gymnase de l'école Joliot, il était extrêmement malheureux parce qu'il avait perdu son instrument de musique. Et puis il avait aussi perdu son instrument de travail. L'accordéon qui lui permet chaque jour de gagner quelques euros. Qu'il dépense partiellement pour se nourrir et s'habiller. Et puis, jour après jour, il met quelques euros de côté pour envoyer chaque mois en Roumanie autant d'argent qu'il le peut. Pour ses enfants qui sont restés là-bas. Voilà. Donc, comme j'avais un voisin et ami, Francis, qui est accordéoniste, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est d'aller parler à Francis pour savoir s'il avait pas une idée pour aider Constantin. Francis, très généreusement, a prêté un de ses plus accordéons pour que Constantin puisse continuer de gagner sa vie. Et puis, quelques jours après, il est revenu me voir en disant « Voilà, les musiciens avec lesquels je travaille seraient d'accord pour donner un concert de solidarité à Ivry qui permettrait sur une partie de la recette de racheter un accordéon à Constantin. Et voilà. Et depuis ce jour-là, avec Constantin, on compte les jours. Et dimanche dernier, je disais à Constantin, plus que 5 jours. Et voilà, on a égrené les jours et aujourd'hui, c'est arrivé. Donc Francis lui donne l'accordéon. Merci beaucoup.
Thank you.
enfant obscrimine, on agite la crainte et l'ancrée le dégoût. Ce texte a franchement le parfum des égouts. Il réduit des humains au statut de vermine, comme pendant la guerre, font remarquer certains, se souvenant du triste et glauque vélodrome. Désormais, lance-t-il en rafle donc les roms, mais non voyant cesser de jouer les puritains.
Votre famille,
Homme social. lângă mine doi copii, din care am trei copii, doi lângă mine și o fetiță născută la Paris, aici. Oui,
je suis là avec mon épouse et avec j'ai trois enfants, mais j'ai que deux enfants qui sont à côté de moi et une petite fille, elle est en Roumanie, mais quand même elle est née à Paris.
Alors ici, vous avez construit, vous, une cabane en dur, hein, en bois, en planche, avec une petite tente à côté pour pouvoir loger toute la famille. Et là, je vois qu'il y a des photos d'Albi. Vous connaissez bien? Mais... Quand c'est lui, ta voix s'en allait avec moi, mais...
Non, on n'était jamais, mais on l'a pris pour les voir. Ils sont jolis, c'est pour ça. Et peut-être ils rendent un espoir qu'on le regarde.
Comment c'est votre village? La moyenne exacte à
54.
Ressemble à Albi. Dans une écorchure.
Il y a une rivière comme ça.
Dans la ville,
oui, c'est... On a une rivière. Vous avez une cathédrale comme ça, une grande cathédrale comme celle d'Albi?
Bah, exact, elle est une cathédrale comme ça.
Oui, bien sûr, on a une cathédrale comme ça. Alors, vous avez trouvé deux magnifiques cartes postales d'Albi et vous les avez collées parce que ça vous rappelle votre pays, votre village. Oui, c'est ça, parce que toutes ces photos nous rappellent de Roumanie. Et vous envoyez de l'argent à votre village, à Dorofoy, dans maintenir la fête que tu tiens aujourd'hui, 4 heures, depuis de combien de chemin il ferait. Oui, bien sûr, on en va par rapport à nos possibilités. Temps en temps, 50 euros, 40 euros pour ma fille qui elle est là-bas, elle vit là-bas. Bien sûr. Et à quel âge alors votre fille?
Doyenne.
Elle a 2 ans. Elle est là-bas avec ma famille, ma mère, ma sœur.
Et vous retournez souvent la voir?
Mon mental, maman, il faut que maman vous demande bonne, d'où tu viens. Je viens coucou petit, très bien bonne. Je m'étonnais bonne, la fête, calme-moi, vous deux à téléphone, coudain, sache. Non, malheureusement, c'est pas souvent parce que on n'a pas d'argent, on n'a pas la possibilité. Ça fait mal au cœur parce que je veux l'amener à côté de moi, mais j'ai pas l'argent pour l'amener là. bien sûr, ça me rend un petit peu malade.
Din cauza că să se ieșe un ban aici, din cauza că pentru asta am plecat. Am mai explicat de multe ori la un interviu, pentru că multe lume nu prea pricepe, îți venesc pentru alte motive. Eu am venit pentru motivul din cauza că e grea viața în România.
On est là en France parce que en Roumanie on a eu des inondations et après on a resté sans maison et c'est pour ça qu'on a venu en France pour une meilleure vie. Et peut-être les autres comprennent mal qu'on n'a pas venu pour voler ou pour faire des bêtises. On veut travailler comme tous les gens, honnêtement. Et c'est dur, quand même, c'est dur. On part en Roumanie une fois par an qu'on a d'argent, mais on se perd pas de partir très souvent. Quel est votre métier, là?
Aici e multe răsitoare, într-adevăr recunoaștem că uităm să mergem la muncă, dacă nu este chiar ceea ce face toată lumea de pe plasă. Ferane, la ferai, gândiți că mai bine. Deci strângem un cablu, adunăm bucată cu bucată, știm că luăm la o lună de zile 102 de euro.
On veut gagner notre vie honnêtement. Bien sûr, c'est un peu humiliant pour nous parce que pour gagner notre vie à Paris, on cherche les poubelles, on collecte des ferrailles dans la rue, et c'est difficile et humiliant pour nous.
Quand est-ce que tu dormais pour nous? Până revoluția lucra, persoanele care lucra cu 10-12 clase, munca lor de 10-12 clase cu facultăți, acum linia asta cu 10-12 facultăți lucrează munca unei ore.
Le pire en Roumanie, c'est que avant, les non-qualifiés qui n'ont pas eu leur diplôme, ils pouvaient travailler tranquillement comme manœuvre quoi. Mais aujourd'hui, il y a des gens. Ils ont eu leur diplôme, même 2-3 diplômes, et aujourd'hui ils travaillent comme manœuvre. Et bien sûr que nous, qui on n'a pas, même pas l'école élémentaire, on n'a pas de place.
Alors on peut sortir les enfants parce qu'il y a une
quinzaine d'enfants là qui se sont tous agglutinés devant l'accordéon de Constantin. Et puis voilà, le groupe va s'installer à nouveau, donc on est au milieu du terrain, il y a des trains qui passent là devant nous, on est au milieu des petites tentes et des cabanes de toile, il y a quatre chaises en plastique là qui sont... placé en arrondi,
qu'est-ce que
tu crois? Il y a le carrefour aussi qui est là.
Euromillions,
Et si votre vie devenait infiniment plus riche? Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
C'est une belle promesse de médaille d'or pour la France aujourd'hui, 20 février 2018, Annecy, ça c'est sûr.
Pour que le rêve devienne réalité, nous avons besoin de vous maintenant. Le 6 juillet prochain sera choisie la ville qui accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver en 2018. Soutenez la candidature sur Annecy2018.com. Annecy 2018, la neige, la glace, il faut. Radio France, supporter d'Annecy 2018, livrateur 2011. Que font les reines après Noël? Olivia Rosenthal.
Je dirais que c'est un livre à la fois sur la condition humaine et aussi sur la condition animale et essayer de voir un petit peu qu'est-ce que c'est d'être un animal, qu'est-ce que c'est d'être un homme et est-ce que les frontières sont aussi nettes qu'on veut bien nous faire croire et voilà, ça parle un peu de ça et ça parle aussi de la question de l'éducation. Pour devenir un homme, il faut qu'on soit éduqué pour, et ça a des bons côtés, puis ça a aussi un peu des mauvais côtés.
Il est aussi question de l'émancipation d'une femme, un livre qui allie profondeur, émotion et fantaisie. Que font les reines après Noël? Olivia Rosenthal. Livrateur 2011. 16h sur la Terre, on se retrouve demain à 15h pour la basse et j'y suis, je vous laisse pour les infos avec Angélique Boy, salut. Témoignages qui nous parviennent de la frontière entre la Syrie et la Turquie sont très inquiétants. Des chars ouvrent le feu dans toutes les directions, raconte un homme cité par Reuters qui a eu ses parents au téléphone dans le village de Manag, au nord de la ville d'Alep. Les gens fuient dans toutes les directions, dit-il. Des chars sont aussi entrés dans le village frontalier de Kirbet al-Jouz où l'on signale des tireurs embusqués sur les toits. Selon la Croix-Rouge turque, 600 Syriens apeurés ont franchi la frontière ce matin pour se mettre à l'abri. Côté turc. Actualité à l'étranger, toujours des manifestations violentes à Dakar. Il y a plusieurs blessés, dont une figure de la société civile sénégalaise, ardent défenseur des droits de l'homme, Aliou Ntine. Heure avec des policiers en marge d'une manifestation contre une réforme constitutionnelle controversée. Plus de transparence, indépendance accrue des médecins face aux laboratoires, refonte totale du système des visiteurs médicaux. 8 mois après l'affaire du médiateur, le gouvernement annonce une vaste réforme du circuit de distribution et de contrôle des médicaments. Réforme saluée par Irène Frachon, la pneumologue qui avait révélé ce scandale. Il y a une vraie rupture, dit-elle. Elle se dit même impressionnée par le plan annoncé par le ministre de la Santé, Xavier Bertrand.
des ministres de l'agriculture des 20 pays les plus riches de la planète réunis à Paris. Bruno Le Maire, ministre français, salue des décisions historique, mais des ONG tempèrent son enthousiasme. Accord à minima, selon l'organisation One. Concrètement, il a été décidé de créer un forum de réaction rapide pour agir en cas de crise mondiale sur les prix. Une augmentation de 70% de la production alimentaire mondiale d'ici 2050. Une base de données sera créée pour pousser les États à être plus transparents sur l'état de leurs stocks, mais rien de contraignant. Et puis le point essentiel, la meilleure régulation des marchés est renvoyée au ministre des Finances du G20. Ce sera à eux de plancher pour trouver des solutions. Le BAC 2011 et ses couacs. Plusieurs enquêtes sont en cours après la fuite avérée sur l'examen de maths en section S, et une enquête administrative a été lancée sur une possible fuite sur l'anglais et la physique dans la même section. En revanche, le remplacement à la dernière minute du sujet national d'économie au bac ES s'explique par une raison très banale. Il a été distribué par erreur lors de l'examen d'histoire-géo dans un lycée lyonnais. La direction a prévenu le rectorat puis le ministère et c'est le sujet de secours donc qui a finalement servi pour tout le monde. Procédure très classique et sans conséquences pour les candidats. En cas de nouveau scrutin cantonal en Corrèze, Bernadette Chirac n'aura plus le même adversaire socialiste. François Barbazange jette en effet l'éponge. Ce n'est d'ailleurs pas lui qui avait déposé plainte pour irrégularité, mais des électeurs. L'élection a été invalidée en raison de 2 bulletins en trop dans les urnes par rapport au nombre de votants. Bernadette Chirac avait été élue dès le premier tour avec une majorité plus une seule voix, 1114 voix contre 1004 pour le socialiste et une centaine pour les verts. En cas de réélection, elle dispose donc d'une confortable avance.
Tous les jours, à partir de 11h, Stéphane Bern,
vous détestez,
vous assistez au prochain Fabuleux, en direct du studio 106, avec Bernard Laporte, rendez-vous demain vendredi.
Bonjour Frédéric. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour commencer les brigands de Jacques Offenbach, opéra bouffant, trois actes, donnés à l'opéra comique jusqu'au 2 juillet, France Inter, et partenaire de ces représentations, il y aura François-Xavier Rotacheux d'Orchestre avec son ensemble Les Siècles, Jérôme Deschamps pour la mise en scène, Macha Makeyev, et pour la mise en scène et les costumes, etc., etc., de très beaux artistes, et puis le cœur de l'opéra de Toulon. Et c'est un moment de divertissement, évidemment, avec Offenbach, c'est rare qu'on se mette à pleurer. Bien sûr, l'histoire de bras cassés, en fait, c'est brigand. Ils font une bande un peu minable, c'est pas vraiment des héros, ils sont pas les bandits redoutables, des romantiques, mais enfin bon, ils ont leur caractère, c'est des losers, ce sont des personnages qui ratent un peu tout. Qui nous deviennent très très sympathiques. Voici l'ouverture de ces brillants opéras de Jacques Offenbach.
Ouverture des Brigands de Jacques Offenbach par l'Orchestre de l'Opéra de Lyon, dirigé par Jean-Louis Gardiner. Donc, cette ouverture qui ne casse pas trop patte à un canard, mais qui est mignonne, qui est sympathique, qui campe un peu l'affaire, puis... Il y a des gens sur scène, il y a du décor, tout ça, ça sera joué à l'opéra comique sur les instruments du 19e siècle et François-Xavier Roth, le chef d'orchestre, nous rappelle qu'au 19e siècle, la facture instrumentale, les instruments à vent notamment étaient vus par les musiciens de toute l'Europe comme un exemple de clarté, de brillant et de précision. Donc à déguster. Et puis voici justement les bras cassés, le cœur des brillants. Ils arrivent, ils entendent le corps qui sonne trois fois et puis on se regroupe, ils sont évidemment un tout petit peu désorganisés au départ. J'ai dit, sont les pieds niqués en quelque sorte. Et voici que Barbavanon, qui court du fond de la scène, crie qui vive, qui vive. Plusieurs voix du dehors, les brigands,